Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 mars 2014. En direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition,
le secrétaire général de l'ONU reçoit à New York plusieurs chefs des communautés chrétiennes et musulmanes de la République centrafricaine.
Ban Ki-moon, profondément préoccupé aussi par les récents développements au Burundi.
En Ouganda, les autorités annoncent que les États-Unis ont suspendu une partie de leur aide en raison des lois anti-homosexuelles du pays.
Voulez-vous la guerre ? La question que le Premier ministre intérimaire d'Ukraine a posée hier directement à l'ambassadeur russe à l'ONU.
Toujours pas de traces de l'avion malaisien, presque une semaine après sa disparition, dans un vol de Kuala Lumpur à Pékin.
Nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Muntou et les sports. Pour l'instant, le journal. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rencontré jeudi à New York plusieurs dignitaires religieux de la République centrafricaine, dont l'archevêque catholique de Bangui, Dieudonné Zapalanga, le président du Conseil islamique Omar Kobin Layama et le chef de l'Alliance évangélique Nicolas Gerekoyam Gbangu, pour discuter de la situation dans ce pays.
Selon un communiqué de l'ONU, M. Ban a déclaré à cette occasion « Ensemble, vous êtes un symbole fort de la coexistence pacifique qui était jusqu'ici un des piliers de la société centrafricaine. Mais cette tradition de longue date est aujourd'hui menacée. » Le secrétaire général des Nations Unies a ajouté « Il faut être clair, le conflit en République centrafricaine n'est pas un conflit de religion. En fait, les appartenances religieuses et ethniques sont manipulées à des fins politiques. »
Ban Ki-moon a souligné que les responsables religieux refusent de se considérer comme des ennemis, qu'ils s'efforcent d'éviter les divisions entre les différents groupes de la société et que la communauté internationale doit leur prêter main forte.
Je rappelle au monde entier que la République centrafricaine doit pouvoir compter sur davantage de soldats et de policiers pour parvenir à protéger les civils. Le pays a besoin d'aide pour sauver des vies, a affirmé M. Ban. J'exhorte le Conseil de sécurité à agir rapidement pour donner suite à mes recommandations concernant l'envoi d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies, a-t-il précisé. Pour le secrétaire général, les Nations Unies doivent rester aux côtés du peuple centrafricain pour promouvoir la paix, la réconciliation, la justice et la responsabilité.
En Centrafrique même, la force Sangaris assure que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée à Bangui. Le général Francisco Soriano, commandant des forces françaises, reconnaît par ailleurs qu'une mission de maintien de la paix de l'ONU est d'une importance capitale. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, le général français a fait cette mise au point aujourd'hui lors d'une conférence de presse. Pour le commandant des forces françaises, la crise en Centrafrique est d'une très grande complexité. L'État n'existe pas, absence de ressources, crise humanitaire réelle, souffrance des populations et prolifération d'armement. Même si la sécurité tend à revenir dans la capitale, une mission de maintien de la paix de l'ONU est urgente, reconnaît Francisco Soriano.
Sangaris, comme la MISCA, ont répondu tout de suite dans l'urgence. Maintenant, au fur et à mesure qu'on consolide, on se déploie pour pouvoir amener la sécurité. Maintenant, je pense qu'une opération de maintien de la paix est absolument nécessaire pour pouvoir aller beaucoup plus loin.
Alors qu'un semblant de calme règne à Bangui, de nouvelles violences sont signalées dans le nord du pays. Au moins une dizaine de civils, dont une femme de 72 ans, ont été tués par des rebelles de Babalade au village de Koki, un marché hebdomadaire situé à 60 km de Markunda.
Le secrétaire général de l'ONU se dit profondément préoccupé par les récents développements au Burundi, en particulier les violents accrochages entre la police et les partis d'opposition. Dans une déclaration publiée hier à New York, Ban Ki-moon a exhorté le gouvernement et les partis d'opposition à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute action qui pourrait exacerber les tensions.
M. Ban déplore les restrictions croissantes sur la liberté d'expression, d'association et de réunion, surtout l'interdiction et la perturbation des rassemblements de l'opposition par la police et la jeunesse du parti au pouvoir. Le respect de ces libertés et autres droits de l'homme est un préalable à des élections libres et justes en 2015. Le Burundi, ajoute le secrétaire général de l'ONU, ne peut pas se permettre de rater cette chance de consolider ses acquis démocratiques. Il encourage les autorités burundaises, les leaders politiques et les représentants de la société civile à travailler ensemble pour une désescalade de la situation. Les Nations Unies sont prêtes à offrir leurs offices à cette fin, a déclaré Ban Ki-moon.
Nous reviendrons sur cette situation au Burundi avec notre correspondant sur place dans la seconde partie de cette édition du Monde aujourd'hui.
C'est aujourd'hui que doit être connu le verdict dans le procès de Pascal Simbikangwa. Il est jugé depuis le 4 février devant la cour d'assises de Paris pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. L'accusation a requis la réclusion à perpétuité. Au micro de Jacques Aristide, Florent Gell, directeur du bureau Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, résume les raisons avancées par l'avocat général pour justifier cette requête.
Sur la gravité des crimes qui ont été commis, sur le témoignage d'un certain nombre de témoins et sur le fait que Pascal Simbikangwa a été identifié comme un haut responsable dans le système génocidaire rwandais et dans un réquisitoire d'une force et d'une justesse rarement égalée en France sur ce type de crime, le parquet a donc réclamé cette réclusion criminelle à perpétuité qui est, semble-t-il, la peine adaptée aux crimes qui ont été commis et qui ont été démontrés au cours du procès. Ils ont adopté une défense finalement assez classique en minimisant et le rôle et l'action et la place de Simbikangwa dans l'organigramme. Mais en tout cas, ce sera demain que devra être rendue cette décision absolument historique. Hein.
Florent Gell de la FIDH joint hier dans la capitale française.
En Ouganda, les autorités annoncent que les États-Unis ont suspendu une partie de l'aide à leur ministère de la Santé à cause des dures lois anti-homosexuelles du pays.
Selon les mêmes autorités, il y a eu suspension de la coopération entre le programme anti-sida du ministère et les centres américains pour le contrôle des maladies, en attendant les conclusions du réexamen des relations américano-ougandaises. On ignore le montant de l'aide affectée, mais au moins 50 agents sanitaires ougandais ont perdu leurs emplois.
La loi anti-gay promulguée le mois dernier par le président Yoweri Museveni menace de la prison à vie toute personne s'engageant dans des actes homosexuels. Le secrétaire d'État américain John Kerry a comparé cette loi au régime nazi allemand et à l'ex-régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et le Danemark et la Norvège ont suspendu des millions de dollars d'aide à l'Ouganda.
L'ancien président de la Sierra Leone, Ahmad Tidiane Kaba, est mort à l'âge de 82 ans après une longue maladie.
C'est grâce à ses efforts qu'il a pu, avec l'aide de troupes de l'ONU, une intervention militaire de la Grande-Bretagne, l'ex-puissance coloniale, mettre fin en 2002 à une guerre civile sanglante de 11 ans. Des dizaines de milliers de personnes ont été tuées dans ce conflit au cours duquel les rebelles du Rouf se sont aussi rendus coupables d'horribles mutilations. Président de 1996 à 1997 et de nouveau de 1998 à 2007, après avoir été écarté brièvement du pouvoir par les militaires, M. Ahmad Tidiane Kaba a quitté sans problème le pouvoir à la fin de son second mandat et a été salué pour son acceptation de la défaite électorale de son parti et de l'alternance à la tête de la Sierra Leone.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le premier ministre intérimaire de l'Ukraine est allé hier aux Nations Unies pour demander qu'on aide son pays à empêcher la Russie d'annexer la Crimée à la faveur du référendum controversé prévu dimanche dans la péninsule.
Lors d'un face-à-face tendu au Conseil de sécurité, Arseniy Yatsenyuk s'est tourné vers l'ambassadeur russe Vitali Tchurkine et lui a demandé sans embâge si les Russes voulaient la guerre. Tchurkine a répondu que si son gouvernement ni son peuple ne voulaient la guerre, ajoutant « Je suis convaincu que les Ukrainiens non plus. Nous ne voulons pas que la situation s'exacerbe ».
Malgré les assurances de Vitali Tchurkine, Moscou a reconnu hier avoir déployé des milliers d'autres soldats et du matériel militaire près de la frontière avec l'Ukraine. En annonçant cette décision, le ministère russe de la Défense a précisé que ces manœuvres continueront pendant 2 semaines. La Russie, qui au début du mois avait envoyé des milliers de soldats en Ukraine, appuie le référendum de dimanche qui porte sur une possible sécession de la Crimée et son éventuel rattachement à la Russie.
L'avion de ligne malaisien, porté disparu depuis samedi avec 239 personnes à son bord, pourrait avoir volé pendant 4 heures encore et parcouru 4000 autres kilomètres après avoir disparu des écrans radars. C'est ce qu'estime un officiel américain impliqué dans les opérations de recherche de l'appareil.
Selon cet officiel, l'avion envoyait encore des signaux dits « ping », indiquant qu'il tentait de communiquer avec un satellite. Les États-Unis ont élargi leur zone de recherche à l'océan Indien, soit très à l'ouest de la trajectoire de l'appareil qui se rendait de Kuala Lumpur à Pékin. Des navires et aéronefs de 12 pays participent aux opérations de recherche du Boeing 777 et jusqu'ici, le mystère reste entier.
Siri Lakhdar Brahimi, l'émissaire spécial des Nations Unies et de la Ligue arabe, avertit Damas que la tenue d'élections présidentielles dans les prochains mois pourrait compromettre les pourparlers de paix avec l'opposition. Les deux séries tenues jusqu'ici par les deux partis n'ont rien donné.
À l'issue d'un briefing au Conseil de sécurité, M. Brahimi a expliqué que l'opposition trouverait probablement superflu toute discussion avec le gouvernement. Damas n'a pas officiellement annoncé de date pour cette présidentielle. Mais on a constaté des activités qui indiquent qu'on la prépare. Elle devrait se tenir avant juillet. Pour les Occidentaux, les diplomates occidentaux, le scrutin sera vraisemblablement truqué pour donner un autre mandat de 7 ans au président Bachar al-Assad qui continue de s'accrocher au pouvoir alors que la guerre civile syrienne entre dans sa 4e année. Voilà pour le journal. Merci à Anne Alberson, Washington, La Voix de l'Amérique. Au Burundi, un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ancien journaliste Alexis Sinduhije et principal opposant politique. Il est recherché par le procureur général de la République pour insurrection. C'était, nous dit notre correspondant à Bujumbura, après le sport de masse des jeunes issus de l'opposition, suivi par un affrontement avec la police à la permanence du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD, lors de la célébration de la Journée internationale de la femme. 71 jeunes sont déjà en prison. Il s'agit là, comme on l'a vu tout à l'heure avec la déclaration du secrétaire général de l'ONU, d'une situation qui inquiète non seulement les Burundais, mais aussi la communauté internationale. De Bujumbura, Eric Manirakiza.
Ces balles à bout portant et des grenades lacrymogènes étaient dirigées à l'endroit des jeunes militants de l'opposition réunis à la permanence du parti MSD pour faire le bilan de leur sport de masse dispersé par la police pendant la journée. Le fracas des armes oblige certains jeunes à se rendre, mais d'autres parviennent à s'enfuir. Dans ses explications, la police déclare que l'utilisation de la force visait la libération de 2 policiers gardés en otage par les militants de l'opposition. Elmenegil de Halimenshi, porte-parole de la police, donne le bilan.
La voie de la médiation échouée, la police n'avait plus d'autres options que l'utilisation de la force pour libérer les 2 policiers. L'assaut policier a forcé le gros à fuir, laissant les policiers là où il les avait enfermés. On a enregistré 8 blessés parmi les manifestants, dont 2 par balle.
Selon la CAT Burundi, 71 militants du MSD ont été arrêtés et emprisonnés en violation de la procédure. Maître Armel Niongere est président de l'Action chrétienne contre la torture.
Les emprisonnements se sont faits à l'endroit des militants de la DC Kibir. Ce sont des emprisonnements illégaux parce que la procédure n'a pas été respectée. Nous qui étions parmi les avocats qui aidaient ces militants, on a vu que même les magistrats avaient des mandats avant l'interrogatoire.
Des minutes avant l'assaut policier, Alexis Sinduhije revendiquait de résister pour la liberté et la dignité des Burundais.
Nous voulons parler de la dignité. La dignité, ça signifie la liberté et la justice. Nous voulons que ce pays soit dirigé en respectant les droits des citoyens qui, à leur tour, doivent respecter les devoirs qu'ils ont envers leur État, leur pays. Nous voulons vivre comme des êtres humains chez nous, au Burundi.
L'ancien rebelle Hutu Agathon Rwasa, qui pendant des années militait pour la libération du peuple Hutu majoritaire au Burundi, appelle au dialogue.
La seule commenté à cette permanence. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas accepté de dialoguer? Ces gens ne manifestaient pas. Ils faisaient du sport. Où ils allaient faire du sport? Est-ce que ça, c'est un délit, vraiment?
Mais du côté du gouvernement, le ministre ayant en charge la gestion des partis politiques accuse le mouvement pour la solidarité et la démocratie de rébellion et menace de rayer ce parti de toutes les formations politiques burundaises agréées. Édouard Douimane.
Nous allons prendre les mesures qui s'imposent et au besoin, et s'il faut suspendre ce parti politique, nous allons le faire.
Cependant, la société civile burundaise en appelle plutôt à la mobilisation pour faire cesser la brutalité policière. Maître Vital Nshimirimana est délégué général de Force, Forum pour le renforcement de la société civile.
La police n'avait pas droit et n'avait aucune raison à tirer sur les manifestants ou des personnes qui étaient en réunion. En tout cas, il y a une nécessité absolue à la mobilisation non seulement de la société civile, mais aussi de la communauté nationale et internationale pour arrêter cette brutalité policière.
La communauté internationale, consciente du danger, invite le gouvernement et l'opposition à plus de retenue pour mieux assurer la préparation des élections générales de 2015. D'autres organisations internationales se mobilisent. La CAT France vient de demander à Catherine Ashton, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale pour établir les responsabilités dans les violences commises et l'utilisation des armes létales par la police. Eric Manirakiza, Bujumbura, La Voix de l'Amérique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays.
En RDC, lancement à Goma d'un programme régional de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Cette initiative est de l'organisation internationale Interpeace, basée en Suisse et qui travaille pour la paix dans les milieux post-conflit. Cette organisation collabore avec des organisations burundaises, rwandaises et congolaises impliquées dans la consolidation de la paix, nous dit notre correspondant dans la capitale du Nord Kivu, Primo Pascal Odagiwa.
Ce programme combine la recherche, le dialogue et le plaidoyer pour une paix durable. Ce programme régional va bâtir aussi ses actions sur une analyse, un diagnostic collectif fait par les citoyens sur les causes profondes des conflits dans la région des Grands Lacs et trouver ensemble les solutions pour les résoudre. Les invités à la rencontre de Goma n'ont pas caché leur satisfaction. Jules Hakizumami est le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu.
Le programme, dans la mesure où il étend ses activités à tout le monde, nous lui accordons toutes les bonnes chances de réussir. Si on veut construire la paix, il ne faut pas qu'on néglige ni une personne, ni une seule recommandation. Parce que tous les avis, il faut les mettre ensemble afin de pouvoir justement construire une paix durable.
Pour les notables venus de l'intérieur de la province, le rapprochement des communautés est un pas vers la paix dans la région. Mwami Bitsibu Bauma, chef de groupement de Kamuronza dans le territoire de Masisi.
Ça m'inspire une bonne chose parce que finalement, il faut le dialogue. Les gens doivent parler ensemble de toutes les questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions taboues, de telle manière que ça puisse rétablir la confiance entre les populations.
Pour le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kahongia, l'initiative de ce dialogue transfrontalier pour la paix est un projet qui vient au moment opportun.
Le lancement de ce programme intervient à point nommé, c'est-à-dire à une période pendant laquelle nous avons plus que besoin de la paix dans la sous-région. Sa portée va au-delà de nos frontières. C'est pourquoi je salue la participation de toutes les délégations des pays voisins, dont la présence ici souligne l'importance d'un dialogue continu dans cette sous-région. C'est donc un travail important, car il ne saurait y avoir la paix durable sans dialogue.
Notons que ce programme de dialogue transfrontalier pour la paix dans la région est un programme d'Interpeace. Il a des partenaires dans la région des Grands Lacs. Au Nord Kivu, il collabore avec Paul Institute pour la partie sud de la province et avec Seja pour la partie nord. Goma, Primo Pascal Rudahigwa pour La Voix de l'Amérique.
Et maintenant, la rubrique des 100 citoyens journalistes en RDC. Leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Mirugi Nestor, citoyen journaliste à Voix de l'Amérique, à Kisangani. lancé en 2012 le projet de renforcement des capacités des cadres du secteur public financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars américains, appuyé 8 centres de formation des cadres de services publics à travers le pays, porte déjà ses fruits dans la province orientale, a indiqué Basile Omaloete, coordonnateur du secrétariat national de renforcement des capacités, SENAREC, qui exécute le présent projet à l'issue d'une journée d'évaluation. Ces derniers citaient notamment l'accroissement des chiffres de la Direction générale des recettes de la province orientale, DGRPO, et la reprise des activités touristiques avec la réhabilitation des sites Wagenya. Tout en se réjouissant des acquis de ces projets, le ministre provincial du budget, Arma Kasumbo, a émis le vœu de voir le SENAREC étendre ses activités à l'intérieur de la province orientale.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Peut-être un nouveau moyen de protection plus pratique contre le VIH. Les chercheurs ont mis au point un gel vaginal qui pourrait être appliqué par les femmes et même après des rapports sexuels, ce qui pourrait encourager son utilisation. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Dans une expérience conduite sur un groupe de macaques femelles, le gel était efficace à 84% contre une infection au virus de l'immunodéficience simienne, virus similaire au VIH. 4 des 6 animaux ont été traités jusqu'à 3 heures après avoir été exposés au virus sans diminuer leur niveau de protection. Les macaques du groupe ayant reçu un placebo ont été infectés. L'étude dont les résultats ont été publiés dans le journal Science Translational Medicine est la première à démontrer l'efficacité d'un microbicide après des rapports sexuels. Walid Henaine de la division de la prévention du VIH-Sida au Centre américain de prévention et de contrôle des maladies en est l'un des principaux chercheurs. Selon lui, le produit expérimental qui contient l'antirétroviral Raltegravir agit en empêchant le virus, une fois dans le corps, de s'intégrer aux cellules et de s'y multiplier.
And we showed that this step takes more than 6 hours, and therefore there.
Et nous avons montré que ce processus prend jusqu'à 6 heures, fournissant ainsi suffisamment de temps pour un traitement avec le gel vaginal. Et nous avons démontré que chez les macaques, cette approche est efficace et protège les animaux contre l'infection, a-t-il expliqué. L'équipe de recherche a aussi découvert que les animaux utilisés dans l'expérience ont été protégés lorsqu'on leur a appliqué le gel une demi-heure avant l'exposition au virus de l'immunodéficience simienne. Toutefois, avant d'entamer les essais cliniques, les chercheurs doivent s'assurer que le nouveau produit peut protéger les êtres humains contre le VIH. S'il s'avère efficace, il offrirait aux femmes un grand avantage. Elles n'auront pas à négocier avec leur partenaire pour l'utiliser et pourront se protéger ainsi contre le VIH, souligne Melissa Robiani, directrice de la recherche biomédicale HIV à New York. Mesurer le degré d'acceptation et d'utilisation du gel constituera une importante part des essais cliniques quand ils commenceront.
Et maintenant les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
En football en Europe, la Ligue Europa.
Huitième de finale aller, le FC Valence l'a emporté 3-0 à l'extérieur sur la pelouse des Ludogorets, Razgrad, pas facile à dire. Le FC Bâle et Salzbourg se sont séparés sur un match nul 0-0. Quant au FC Porto, il a dominé Naples 1-0.
Lyon, Victoria Plzeň 4-1. FC Séville, Betis Séville 0-2. Juventus Turin, Fiorentina 1-1. Tottenham Hotspur Benfica 1-3. AZ NG Makhachkala 1-0.
Et puis quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Houston 87, Chicago 111, Milwaukee 97, Atlanta 102, LA Lakers 102, Oklahoma City 131. Merci à Nicolas et maintenant Roger Muntou et sa musique. Bonjour Roger.
Salut Drissa, ce matin c'est Lady Gaga. Écoute, c'est la reine du n'importe quoi en matière de mode. Il y a ces photos sur internet qui circulent bien sûr. Alors qu'il fait très froid à New York, la chanteuse se balade quasi nue, comme si de rien n'était. Mais écoute, Nous, on aime quand même sa voix et on écoute sa musique. Alors ce matin, on écoute Alejandro.
Lady Gaga se dit être influencée par de grands noms de la musique pop tels que Madonna.
Oui, Drissa, Madonna, c'est ça, exactement. Madonna, on voit bien la ressemblance, on dit. À 11 ans, elle tente de s'inscrire à la célèbre Juilliard School de Manhattan, une grande école d'art, hein, de musique et tout, mais rentre finalement au couvent du Sacré-Cœur, une école privée catholique. Ses premières ballades sont écrites lorsqu'elle a 13 ans. Et une de ses chansons préférées, d'après une de ses interviews, elle aimait beaucoup la chanson de Madonna, Holiday.
Lady Gaga, Alejandro, merci Roger.
De rien Idrissa, bonne journée.
Roger Muntou que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel. Aujourd'hui, sur la voie de l'Amérique, en direct de Washington, Anne Alberson nous rejoint en studio pour le rappel des titres.
Le secrétaire général de l'ONU a reçu hier à New York plusieurs chefs des communautés chrétiennes et musulmanes de la République centrafricaine. Ban Ki-moon, profondément préoccupé aussi par les récents développements au Burundi. C'est aujourd'hui que doit être connu le verdict dans le procès du Rwandais Pascal Simbikangwa. Il est jugé depuis le 4 février devant la cour d'assises de Paris pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. En Ouganda, les autorités annoncent que les États-Unis ont suspendu une partie de leur aide en raison des lois anti-homosexuelles du pays. Voulez-vous la guerre? C'est la question que le Premier ministre intérimaire d'Ukraine a posée hier directement à l'ambassadeur russe aux Nations Unies. Et toujours pas de trace de l'avion malaisien, presque une semaine après sa disparition, dans un vol Kuala Lumpur-Pékin.
Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.